Nous poursuivons ce culte d'adoration avec cette question redoutable devant nous. Quelle est la place de Dieu dans nos vies? Quelle est la place de Dieu dans nos cœurs? Et pour poursuivre de belle manière, nous allons avoir trois prédications. Ou plutôt une prédication en trois fois. Trois fois la même prédication, mais sous un mode un peu différent. La première prédication sera faite par vous. Elle sera sous forme chantée. Et elle sera tirée du psaume 92. L'ensemble de ces trois prédications va donc insister sur cette poésie biblique qui est, comme l'a rappelé Garance, la parole de Dieu inspirée, qui nous sert de fondement. Et cette forme de poésie biblique en musique a été très, très importante pour les Juifs dans leur adoration au Temple et pour nous, l'Église chrétienne, depuis maintenant 2000 ans. La place du chant a été très, très importante. Elle a été même remise en valeur, redécouverte à l'époque de la Réforme avec un projet considérable qui a été initié à Strasbourg par M. Busser et puis d'autres. Je fais court parce que ce n'est pas tellement l'histoire qui va nous intéresser, mais c'est plutôt ce que nous allons faire maintenant. Mais c'est pour lui donner l'épaisseur historique. Et puis ensuite, Calvin a missionné Théodore de Bèze et Clément Marot pour leur dire « Vous allez adapter les 150 psaumes en français courant, vous allez capturer l'essentiel du psaume et on va le mettre en musique et on va le chanter dans l'assemblée. » Et il y a eu un petit recueil de psaumes qui est paru et qui était sur une voix et qui a été ensuite largement... L'Église l'est approprié avec enthousiasme et il a chanté les psaumes. Et c'est ce que nous allons faire, et nous allons commencer donc par cette première prédication sous forme chantée par vous, le psaume 92. Il est peut-être familier de la mélodie est la mélodie de 1562 ou 64, donc il y a un petit côté vintage, là vous allez le reconnaître, mais ça va être actualisé par l'équipe de chant. L'équipe de soutien au chant va rejoindre les musiciens. Et vous pourrez rester assis, vous allez donc vous laisser imprégner par cette mélodie, par cette belle musique, ça va être piloté, et on va avoir ensuite les quatre strophes que vous allez pouvoir vous approprier. Vous pouvez aussi rester assis pour le chanter, si vous aimez être debout pour chanter, vous vous mettez debout, peu importe. Mais donc la porte est maintenant ouverte, c'est bon pour la première prédication de rentrée. Un petit mot encore. Parce que je ne sais pas où placer cette petite information, je vous la place maintenant, comme ça c'est fait. Je me suis appuyé pour cette prédication de deux ouvrages. Le premier, c'est le psautier français qui a été édité donc en 1560, 1570, etc. et qui a été reproduit des dizaines, peut-être des centaines de milliers de fois. Il est aujourd'hui réédité, depuis déjà quelques dizaines d'années, et vous avez les 150 psaumes dans les mélodies de 1560, par le texte de Théodore de Bèze et de Clément Marot, un petit peu revu par M. Chapal en 1970. Voilà, ça c'était pour la première source. La deuxième source, pour redécouvrir les psaumes, vous avez le compte-rendu du colloque de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine de 2012, ça va faire 10 ans. Vous avez ici des articles passionnants pour ceux qui veulent prolonger la question des psaumes et de leur impact dans nos vies. Voilà, j'en ai assez dit maintenant comme une introduction trop longue, et on va donc écouter votre prédication par l'équipe de chant qui arrive maintenant.
Thank you.
pouvez prendre place. Les musiciens vous relaxez aussi. On va attaquer le deuxième volet de cette prédication en voyant ce texte original, le psaume 92. Donc je le lis. Il va apparaître sur l'écran. Super, ça marche. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. L'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève, verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Voilà, il y a 3 diapositives et il y aura donc 3 parties dans la prédication. L'une s'attardera sur cette affirmation « Il est beau, il est bon de louer le Seigneur ». La deuxième, ce sera les stupides, les insensés, les méchants, les ennemis et leur prospérité. Et la troisième partie, ce sera la prospérité du juste, la prospérité durable, la sécurité du croyant. Donc, nous voilà avec un texte inspiré, poétique, qui parle de la beauté et du fait que c'est bon de louer le Seigneur. Qu'est-ce qu'on entend par cette expression ? J'utilise alternativement le mot « bon » et « bon » et « beau » et « bon » parce qu'en réalité, aussi bien en grec qu'en hébreu, les deux mots recouvrent une même réalité qui nous a un peu échappé, nous, aujourd'hui, parce que ce qui est bon chez nous n'est pas forcément beau, donc c'est un peu troublant. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette affirmation « Il est beau de louer l'Éternel » ou une autre traduction dira « Il fait bon de louer le Seigneur ». Est-ce que c'est esthétique, artistique ? C'est beau, on contemple la chose. Est-ce que c'est moral ? C'est bon, parce que c'est bon, tu le feras. Je vous propose une troisième voie. C'est beau, c'est bon, parce que cela est bon pour votre santé, pour votre développement, pour votre édification, pour vous individuellement et pour vous en tant qu'Église, pour grandir, mais aussi pour le monde, pour que le monde entende. Et nous verrons qu'il y a 2 invitations dans ce psaume pour annoncer sa bonté, pour faire connaître Dieu. Donc, cette beauté-bonté englobe tout un bien-être de l'Église, avec un grand E, tout le bien-être, l'hygiène du corps de Christ. C'est à travers cette louange que tout le corps va se développer, entre autres, par ce moyen. Et là, de manière assez étonnante, il est question au verset 4, seulement au verset 4, de l'instrument à 10 cordes, du luth et du son de la harpe. Adrien était tout à fait prêt à relever le défi d'amener son dodécacorde, ou son décacorde plutôt, 10 cordes. Il n'en a que 8, mais il pouvait acheter un kit pour en rajouter 2. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que cette mention des instruments n'est pas en introduction du psaume. Vous savez, il y a des psaumes où on lit psaume de David sur le luth, etc. Comme si on rassemblait un petit peu les éléments techniques avant de commencer la poésie proprement, la poésie chantée proprement, à proprement parler. Là, il est question seulement au verset 4 de cette idée qu'il est bon de louer avec des instruments. Ça, c'est très intéressant. Dans la pensée de Dieu, sa parole poétique chantée va être portée par des instruments. Ici, il y a des instruments spécifiques de l'époque de David. Nous avons aussi nos propres instruments avec lesquels nous sommes à l'aise. Et il se produit quelque chose de tout à fait étonnant. Il y a comme une transmission au plus profond de notre être, une transmission de cette parole de Dieu sous un mode qui est différent de celui que je suis en train de pratiquer et que vous pratiquez dans les études bibliques, par exemple, c'est-à-dire le mode didactique. Je parle, je fais des propositions, sujet, verbe, complément, plus souvent assez grammaticalement juste, pas toujours. Et c'est comme ça que l'édification passe. Mais là, on est sur un autre mode. Et ça rentre dans nos cœurs et ça va y rester de manière vivante, souvent joyeuse, quelquefois. C'est en fait, le psaume, c'est le cri du cœur. Le cri du cœur joyeux, le cri du cœur désespéré, le cri du cœur perturbé, très dans l'interrogation, Seigneur, tu nous as laissé tomber. Tous ces cris du cœur, pendant 150 poésies, sont portés par des instruments pour notre édification, avec des invitations tout de même fortes, éclatées de joie. Vous figurez un petit peu ce que veut dire le mot éclater. Moi, je vois bien un ballon de baudruche qui éclate. Et bien là, on nous demande la même chose, mais dans la joie. Donc, ça, c'est des invitations très fortes. Alors là, il n'y a pas éclaté, mais il y a l'allégresse. Et un chant d'allégresse. Et les pensées de Dieu sont profondes. Donc, une mise en avant, ce psaume remet en avant, met en avant l'importance de cette louange du texte biblique porté par la musique. Et vous avez un instrument à cordes. Vous, je ne sais pas combien il y en a, je me tourne un peu vers Daniel, je crois qu'on a 2 cordes vocales. Hein, c'est ça, hein. Oui. Donc, on a un instrument à cordes, à 2 cordes. Et on peut déjà le pratiquer, soit ou en groupe. Si on chante faux et qu'on est tout seul, ça ne dérange personne. Donc vous pouvez chanter aussi. Et vous pouvez chanter les psaumes. Et puis si vous êtes en groupe et que vous n'êtes pas trop sûr de votre voix, ça ne fait rien, vous vous laissez bercer, vous écoutez. Enfin, de toute façon, cette musique qui va porter... Ce n'est pas les paroles qui portent la musique. Ce n'est pas la musique qui est jouée toute seule. Là, les instruments vont porter la parole de Dieu. Et encore une fois... il va se produire quelque chose de tout à fait particulier. Deuxième partie, sans transition, les stupides, les insensés, les méchants, les ennemis. Ah, l'homme stupide, verset 7, l'insensé, les méchants, verset 8, les ennemis, verset 10, de nouveau verset 12. Est-ce bien nécessaire ? Était-ce bien nécessaire d'introduire cette notion des méchants, des ennemis, des insensés, des stupides, de les mettre dans une poésie et de les chanter ? Oh, on pourrait en faire l'économie. D'ailleurs, on en fait l'économie. Vous remarquerez, dans tous nos chants contemporains, il n'y a pas ça. Ça a disparu. On chante une version « Il est beau de louer le Seigneur », etc. Mais là, je ne crois pas qu'il y ait d'ennemis dans ce chant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, je me suis dit, tiens, Je vais passer les 150 psaumes en revue, je vais voir combien parlent des méchants, du mauvais, des ennemis, des mensongers, des menteurs, etc. Alors, combien de pourcents ? C'est énorme. 50. 107, 100, 108 psaumes sur 150. La poésie biblique est entièrement chantée, est entièrement remplie du thème de l'opposant, du méchant, de l'ennemi. Ouh, bon, comment on peut faire avec ça là ? Là, on est devant un vrai problème. Alors, on va essayer d'éliminer les méchants, les ennemis qui ne sont pas mentionnés dans ce texte. Celui qui ne taille pas sa haie mitoyenne avec vous, ce n'est pas le méchant biblique. Vous avez un contentieux de voisinage, vous avez d'autres contentieux dans la vie, c'est possible. Ce ne sont vraisemblablement pas eux les ennemis dont il est question dans ces psaumes. Et pourtant, il est question de méchants. Ce n'est pas non plus les méchants qui sont dans le camp adverse. J'ai appris cette année qu'on célèbre les 450 ans de la Saint-Barthélemy. Cette année funeste, hein, je crois que c'était à l'automne, hein, j'en sais rien en fait. Voilà. Formidable, 24 août. Waouh. Et ça a été dramatique, on estime, c'est difficile à dire, mais plusieurs dizaines de milliers et de morts à travers le royaume de France à cette époque. Et encore récemment, là je bascule à notre époque, encore récemment, on a vu cette tentation d'instrumentaliser Dieu pour l'amener dans notre camp. Par exemple, dans le conflit ukrainien et russe. Ah, Dieu, il est de quel côté là ? Ça me fait penser à cette texte biblique que j'ai recherché, je n'ai pas trouvé. Il y a un juge dans la Bible, dans le livre des juges, ou alors c'est Josué, je ne sais plus très bien. Il est à la veille d'un grand combat, et tu n'as pas retrouvé le passage depuis, hein. Il cherche, je demande à Pierre, tu n'as pas trouvé non plus. Donc, on va dire que c'est Josué, on corrigera éventuellement, et il est à la veille d'un grand combat, et il voit un grand personnage arriver devant lui, qui semble être glorieux et très puissant, il est armé, et Josué demande à cette personne, mais tu es où là ? Tu es pour nous ou tu es dans le camp adverse ? Et l'ange de l'Éternel dit, non, je suis l'envoyé du Très-Haut, non. Je suis au-dessus. Pas en dehors, pas absent de votre situation de guerre ou de conflit, mais au-dessus. Et essayons maintenant, ça ne va pas être facile, essayons maintenant de reprendre ces méchants, ces insensés, en les chantant, mais en les comprenant de la manière dont Dieu veut nous les faire comprendre. Premier élément dans ce psaume, là on a un psaume gentil en fait, qui est un peu facile, mais prenons-la. Les ennemis sont les ennemis de qui ? Ce sont les ennemis de Dieu, ce ne sont pas les miens. Donc je chante et je reconnais que le monde est imbibé du mauvais, avec un grand M, du mal, que rien est loin d'être parfait dans ce monde et qu'il est effectivement dévasté par une opposition, par une malignité qui, à la base, est celle d'un opposant à Dieu lui-même. Aujourd'hui, je suspecte la société de véhiculer une vision, on va dire, bisounours, une vision expurgée de la réalité, celle où il n'y a pas de mauvais. Il nous faut nous réapproprier, en tant que chrétiens, cet enseignement biblique qui dit « il y a le mal, ça existe et c'est laid et c'est extrêmement hideux parce que cela s'élève jusqu'à s'opposer à Dieu lui-même. » Un autre psaume qui peut peut-être vous aider à comprendre qui est l'ennemi et le méchant dans la Bible, c'est le psaume 2. Le psaume 2 pose la question « Pourquoi les nations s'élèvent-elles contre Dieu et contre son Messie ?» Il est là, la concentration des ennemis. Et nous ne sommes autorisés à appeler les ennemis de Dieu comme nos ennemis que dans la mesure où nous acceptons d'être nous-mêmes dans le sein de Dieu, de le confesser comme étant nous-mêmes partie de sa maison. J'anticipe sur la troisième partie du psaume. Donc voyez-vous, nos ennemis ne sont pas nos ennemis. S'ils sont nos ennemis, ils sont d'abord ceux qui s'opposent à Dieu et à son Messie. Je vous rappelle à cet égard 2-3 épisodes de la vie de Jésus qui sont quand même significatifs. Jésus, devant son auditoire, lui dit « Cache, vous avez pour père le diable. » Le diable est menteur depuis le commencement et vous êtes menteur. Voilà un verdict de la bouche qui sort de la bouche de Jésus et qui n'est pas tendre. Qui nous fait comprendre qu'il y a la vérité de Dieu telle qu'elle nous est enseignée dans sa parole et qu'il y a celle, il faut la débusquer, il faut pouvoir l'identifier, celle qui, dans ma propre vie et dans mon propre cœur, est finalement rebelle à l'ordre et à la loi et à la parole de Dieu. Donc il y a un ennemi chez moi déjà à débusquer. Et puis il y a l'ennemi collectif dans les sociétés, dans les groupements humains qui s'élève contre Dieu et contre son oint et contre les disciples de son oint, du Messie, de Jésus-Christ. Et il faut à cet égard poser la question aux ONG qui s'occupent de la persécution des chrétiens, il y a bien sûr Portes Ouvertes, il y en a d'autres, qui constatent avec quelle hargne cette haine de Dieu et de ses enfants s'exerce pour les faire taire. Donc voilà pour replacer cette deuxième partie de la deuxième prédication sur les ennemis, sur les méchants. Et cette partie nous dit quoi en fait ? Peut-être pas autant. N'insiste pas autant sur les ennemis que sur leur devenir. C'est une instruction pour nous pour leur dire « Vous voulez investir dans l'éphémère, dans ce qui va sécher quand il va y avoir trop de soleil et pas assez d'eau, investissez dans la vanité, dans le mensonge. Vous serez dispersés, vous serez emportés par le vent. » Voilà ce que dit ce psaume. Avant de s'adresser peut-être aux ennemis qui vont l'entendre, il y a aussi ce message. Chaque fois que je construis quelque chose qui prend la place de Dieu, mais qui n'est pas Dieu, qui est une idole, eh bien, ça ne va pas durer. Ce n'est pas durable. Donc, chantons, chantons le stupide, le méchant, l'ennemi de Dieu. Faisons-le entrer dans notre louange pour le mettre à sa place. Nous rendrons service à nous-mêmes, à l'Église et aussi au monde. Troisième partie. Les justes croissent comme le... Alors oui, tiens, j'avais encore un petit mot sur la deuxième là. Vous avez vu, au verset 12, « Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. » Le croyant va être serein même quand il entend et quand il voit ses adversaires. Il va se plaire à les contempler, non pas dans un esprit de vengeance en se disant, il y aurait tout un chapitre sur la vengeance. Bon, c'est toute une prédication, donc je ne vais pas commencer sur la vengeance, sinon en vous disant, relisez Romains qui invite à ne pas se venger et à remettre la vengeance à Dieu. Mais la deuxième partie est importante, remettre la vengeance à Dieu. Et c'est précisément ce que font les psaumes. Ils chantent, ils ne se vengent pas physiquement, ils ne rentrent pas dans l'acte, ils ne font que célébrer le Dieu qui est juste et qui va, parce que c'est son job, rétablir toute justice quand le moment sera venu. Et le moment est venu pour les ennemis de ce psaume, parce qu'ils ne vont pas durer, ça c'est sûr, leur construction n'est pas solide. Quelle est la construction solide ? La voilà, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, ils sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Alors j'ai appris qu'il existe un mouvement contemporain qui s'appelle le jeunisme. Est-ce que vous êtes atteint de jeunisme ? Vincent, un peu ? Non ? Non. Moi non plus, mais... C'est, paraît-il, si j'ai bien compris, l'envie de toujours paraître comme quand on a 20 ans. Ça vous dit quelque chose ? Waouh ! Fabuleux ! C'est le jeunisme. Il y a un tableau dans la salle d'attente de chez le dentiste. C'est le tableau « La fontaine de Jouvence », une interprétation de l'artiste sur la fontaine. Vous avez à gauche des vieilles mémées. Curieusement, c'est que des mémées. Il n'y a pas de papé. Des vieilles mamées qui arrivent, qui sont sur des brancards, etc. Elles plongent... Il me fascine, ce tableau. Il me fascine complètement. C'est pas pour ça. Elles plongent dans un espèce de fontaine. Elles traversent la fontaine et de l'autre côté, elles ont 20 ans. Et il y a de preux chevaliers qui les attendent, etc. Enfin, c'est un peu licencieux hein, comme tableau. Bon, il n'y a rien d'explicite, mais... Le jeunisme. Est-ce que la Bible pratique une forme de jeunisme ? Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Bon, pas trop ça quand même, hein. Alors, c'est comme résoudre la question du méchant, hein. C'est pas facile. Il faut des clés. Il faut des clés pour se dire, mais qu'est-ce que le texte veut dire quand il parle des ennemis ? Qu'est-ce que le texte veut dire quand il parle de la prospérité des justes ? Les justes croissent, ils n'arrêtent pas de grandir, ils sont solides. Alors, je vais vous inviter à réfléchir à la question posé par le verset 14. Qu'est-ce que vous comprenez par l'expression « la maison de l'Éternel » et par l'expression « les parvis de notre Dieu » ? Adrien, il fait des grimaces, vous le verriez, il est mal. Qu'est-ce qu'on comprend ? Vous vous souvenez de cette chant ? Un jour dans... vaut mieux que mille ailleurs. C'est quoi ? C'est ici ? Là, ce matin ? Oui et non. Non, parce que le bâtiment n'est pas le temple. Bien que dans la tradition française, on fasse la distinction entre une église de village et un temple de village. Cette maison de l'Éternel, c'est parmi, parce que c'est là qu'est la clé pour comprendre notre jeunisme biblique pour notre, on va retrouver toute la, on va pas trop, ils disent pas, c'est pas un retour, hein, c'est pas une nostalgie, hein. C'est une croissance continue, c'est une solidité, c'est une durabilité du juste. Alors des pistes là. Dans le texte, ce psaume a vraisemblablement été écrit aux alentours de l'époque de David, de Jérusalem. Je dis vraisemblablement parce qu'il n'y a pas d'introduction qui permet de le dire. Et qu'à l'époque, il y avait un temple, il y avait un parvis, il y avait un culte, il y avait le Shabbat hein, dont il est mentionné au début du psaume, jour du sabbat, il y avait un sabbat, il y avait des célébrations. Et quand le juif lisait et chantait le psaume 92, pour lui, il n'y avait pas besoin de clé. C'était littéral. Il allait croître et être solidement implanté dans le parvis, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, puisque, je me trompe un peu, hein, David, il n'avait pas construit le temple encore, c'est Salomon qui le construira. À l'époque de David, il n'y avait que la tente de la rencontre, hein, la tente telle que Moïse l'avait fait construire par les nomades qui étaient sortis d'Égypte et qui n'étaient pas encore rentrés en Canaan. La tente de la rencontre avec le lieu très saint, le lieu saint, le parvis, avec la clôture autour du parvis, etc. C'est ça que David avait à son époque. C'était le lieu physique de la rencontre, de la présence, d'ailleurs son nom l'indique, de la présence de Dieu avec ce lieu très saint et la gloire de Dieu qui remplit le temple. Donc pour eux, pas de difficulté. Pour nous, oui. Alors, c'est quoi ce parvis? C'est quoi cette maison de l'Éternel? On pourrait simplifier en disant c'est une allégorie qui veut dire la communion en présence de. Voilà, tout simplement. Un peu juste. Ça ne va pas jusqu'au fond. Souvenez-vous, Jésus a dit à propos du temple à ses disciples qui disaient « Voilà les belles pierres, regarde !» C'était le deuxième temple. Hérode l'avait fait reconstruire, etc. Et Jésus dit quelque chose de terrible. Il n'en restera pas pierre sur pierre. « Mais détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Affirmation qui va être reprise par les ennemis de loin de Dieu, le jour de son jugement devant Pilate, des témoins vont lui dire « Il est venu affirmer qu'il allait détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. » Ensuite, il y a... Pour que les idées soient bien claires, si Jésus dit ça, il parle de son corps. C'est d'ailleurs explicitement dit. Son corps, c'est le temple de Dieu. C'est le lieu de la rencontre, c'est l'endroit où l'on rencontre Dieu. Et toute une épître va être consacrée à ce problème de l'ancien ordre des choses, le temple, les cérémonies, les sacrifices, les prêtres, toute cette institution de l'Ancien Testament pour le voir à travers sa réalisation en Jésus-Christ. Il s'agit de la lettre aux Hébreux. C'est un peu difficile d'accès par moment, mais cela prend point par point toute cette question de dire mais la maison de l'Éternel, c'est sans aucun doute possible Jésus-Christ. Les parvis de notre Dieu, c'est l'endroit où on est assis à table avec lui. Référence à ce que nous allons vivre tout à l'heure. Donc la réalisation de Jésus-Christ va trouver ici une force tout à fait étonnante. L'expression la plus fréquente dans le Nouveau Testament, c'est l'expression « en Christos ». Je crois que je prononce bien en grec. C'est l'expression « en Christ ». Cette expression est peut-être la plus profonde, la plus vitale, la plus essentielle pour chanter les psaumes. Parce que dans les psaumes, il est question de la montagne sainte, il est question de Sion, il est question de Jérusalem, il est question du parvis, comme là, du temple, du lieu saint, etc. Toutes ces choses sont réalisées dans la personne de Jésus-Christ, qui est à la fois la victime expiatoire, qui est à la fois le prêtre, qui est à la fois le lieu où se déroule ce culte ultime. Donc voilà, c'est dans notre union avec Jésus-Christ que nous allons croître, que nous allons être verdoyants, pleins de sève. Voilà l'affirmation que certains commentateurs, dont Jean Calvin, n'hésitent pas à dire, ils parlent ici de la résurrection, forcément. Parce que qu'est-ce que nous vivons, nous, dans nos vies? Rien de mieux que les non-croyants. Hein. On a nos arthroses, on a nos problèmes de cœur, on a nos problèmes de circulation, on a nos drames, nos difficultés et nos deuils. Mais l'union en Jésus-Christ, cela renvoie à la question de la parole de Jésus que l'on peut lire dans Jean au chapitre 7. Est-ce que c'est bien ça ? Qu'est-ce que Jésus dit ? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son être intérieur. Voilà la vie dont il est question par l'Évangile. Il est donc très bon, très approprié, très adéquat de louer le Seigneur. Il est tout à fait essentiel que nous chantions ces paroles inspirées de l'Esprit avec la musique, si possible. Tout le monde n'est pas encore équipé parmi vous d'une harpe, mais on se dirige, on y arrive. Et ça va être important. Ça va être important. Alors la troisième prédication arrive. On va l'écouter. C'est vous qui allez la redire une nouvelle fois. Vous allez prêcher ensemble, en groupe, que c'est chose belle de louer le Seigneur. Alors, deux, trois petites... transition. Non, il n'y a pas besoin d'annoncer l'offrande, ben c'est après. Hein. Oui, d'accord, tout va bien, j'oublie rien. Revenons à l'essentiel là, psaume 92, cette prédication chantée pour faire connaître. C'est une apologétique. Allons-y, alors là, il faut que je... Ouais, c'est bon.
Merci Gérard pour cette triple prédication.